Michel Abrec, bonjour.
Bonjour, Michel.
Déjà la semaine dernière, vous nous avez mis un peu en appétit. Mm-hmm. Mais là, on va parler d'un des grands enjeux majeurs, en fait, pas juste dans la campagne électorale, mais dans la société indienne, la situation des femmes.
Oui. Alors, en Inde, Michel, on dit qu'on trouve tout et son contraire en même temps. Et la situation des femmes, ça illustre parfaitement cette phrase-là. C'est un pays, écoutez, qui a été un des premiers, sans doute, à avoir élu à sa tête une femme. Hein. Indira Gandhi, 1966. Mm-hmm. Ça fait longtemps, c'est beaucoup, bien longtemps avant Pauline Marois. En tout cas, ça, c'est certain. Mais c'est aussi un pays où chaque jour, on viole, on harcèle les femmes. Un pays où la structure familiale, pourrait-on dire, et les traditions continuent de favoriser les garçons.
Et c'est justement dans l'actualité récente une histoire vraiment pas drôle qui a ramené la place des femmes comme un enjeu politique dans la campagne.
Oui, on en parlera dans le reportage que je vous présente. D'ailleurs, l'Inde a subi un électrochoc à la fin de 2012 avec le viol collectif d'une jeune femme de Delhi qui a amené le gouvernement à faire une vaste enquête, proposer des réformes majeures de la justice et des mentalités. Donc, tous les partis politiques, Michel, nationaux, ils ont dans leur plateforme un programme d'émancipation des femmes. En anglais, on utilise ce terme de empowerment, donc prise en charge, mm-hmm. on pourrait dire. Alors, plutôt que le terme d'égalité, je trouve ça intéressant. Et puis, ils doivent séduire ces partis des femmes, des électrices qui sont de plus en plus éduquées, qui habitent les villes et qui n'acceptent plus nécessairement le rôle qu'on attendait d'elles jusqu'à maintenant.
Et pour illustrer ça, votre reportage va nous amener dans deux régions. En fait, on pourrait même dire deux Indes différentes.
Oui, alors, la capitale, Delhi, une mégapole, hein, 20 millions d'habitants, où la nouvelle Inde au féminin confronte l'ancienne Inde, mais d'abord, Michel, la campagne indienne, où les femmes sont parfois de véritables citoyennes de seconde zone, mais où d'autres femmes essaient de changer ça. Donc, mon reportage commence dans les campagnes de l'État du Rajasthan, au nord de l'Inde. C'est avec un chant comme ça qu'on accueille les visiteurs au village de Jaisingpura, dans l'État du Rajasthan. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Une cinquantaine de femmes du village rencontrent le conseil municipal pour discuter de leurs priorités.
Ce qu'on leur fait faire en ce moment, c'est qu'on leur pose des questions au niveau sanitaire, d'hygiène, sur leur propre pratique de santé. Avant que l'ONG ici forme des volontaires de village, il n'y avait pas ça. Les femmes ne parlaient pas en public.
L'anthropologue québécoise Marie-Hélène Dufour travaille avec une organisation non gouvernementale locale et termine un doctorat sur la situation des femmes en Inde. Il y a eu certains progrès, mais les traditions culturelles et religieuses de cette région gardent souvent les femmes dans l'ombre.
Au Rajasthan, il y a la pratique de la purda. La purda, c'est le fait de rester à la maison quand tu es une femme mariée et tu ne sors de la maison que si ton mari te donne la permission ou si tu es accompagnée par lui ou un autre membre masculin ou féminin plus âgé. Donc, ça fait que les femmes sont assez sécluses.
Souraj a 46 ans. Elle a été mariée à 7 ans à un étranger choisi par sa famille. Elle nous raconte une série d'histoires qui en disent long sur la place des femmes ici.
Elle nous a expliqué que ses deux premières filles, elle les a mariées à 14 ans et 15 ans. Donc, elle n'était pas majeure.
L'anthropologue Marie-Hélène Dufour recueille avec moi le témoignage de Souraj. Elle s'intéresse à un phénomène important de la société indienne, la préférence marquée des familles pour les garçons. Et la suite de l'histoire de Souraj lui fournit un exemple percutant.
Elle a eu ses deux premières filles et donc elle ne voulait plus avoir d'enfants. Donc, elle s'est rendue à une clinique pour avoir une ligature des trompes. Mais sa famille sont allés la chercher juste avant la chirurgie pour lui dire non, on aimerait avoir un fils parce que le fils, il y a une préférence pour les fils, donc on veut des fils dans la famille. Ils lui ont donc dit non, tu fais pas l'opération. Donc, elle a eu une troisième grossesse dans l'espoir d'avoir un fils. Ce qui n'a pas fonctionné, elle a eu une troisième fille. Donc, elle-même était rendue à un moment où elle préférait ne plus avoir d'enfant. Elle est retournée à la clinique pour faire encore la même chirurgie. Sa famille l'a arrêté une deuxième fois pour qu'elle puisse avoir une quatrième grossesse.
Mais Souraj nous raconte aussi comment sa vie a changé quand elle a joint l'ONG Siddharth, qui travaille à l'émancipation des femmes. Elle a convaincu son mari de la laisser sortir de la maison. Elle a enlevé son gungat, un voile que les femmes mariées doivent porter selon les traditions du Rajasthan. C'est en bonne partie à cause d'organisations comme celle-ci que les choses changent lentement pour les femmes dans le village de Jaisinpura. Ma fille est très bonne à l'école et je veux qu'elle devienne ingénieure, nous dit Krishna, 36 ans. Elle habite le même village que Souraj. Avant de joindre les rangs de Siddharth il y a 6 ans, elle était elle aussi confinée dans sa maison. Aujourd'hui, Krishna tente de changer la mentalité des femmes et des hommes de Jaisinpura. Il y a clairement des progrès. Des femmes siègent sur le conseil municipal. Très peu de femmes se marient maintenant en bas âge. Mais Krishna pense qu'il y a encore beaucoup de comportements à changer.
Il y a beaucoup de cas de violence domestique au village. Les hommes s'enivrent régulièrement et battent leurs femmes quand ils reviennent à la maison. Le problème, c'est qu'elles refusent d'en parler. Elles ont honte et craignent la réaction de leur famille. Donc, il y a très peu de plaintes en justice.
It's a society where culturally, religiously, socially, we have sanctioned discrimination.
L'Inde est une société où la discrimination est imprégnée dans la religion, la culture et la société, dit Vrinda Grover. C'est une avocate féministe et militante des droits de la personne. Vrinda Grover constate que de plus en plus de femmes et d'hommes veulent que ça change.
Almost every cultural norm in this country.
Presque toutes les normes culturelles dans ce pays, que ce soit les fonctions religieuses ou encore la façon dont la société est divisée, poussent à l'inégalité. Et on a commencé à parler de ça et à remettre ça en question.
Mais ce n'est pas facile de changer des pratiques culturelles qui ont la vie longue. Par exemple, la préférence des familles pour les garçons plutôt que les filles semble se maintenir malgré les changements économiques et sociaux que vit le pays.
Aujourd'hui, avec le développement économique de l'Inde, on s'est rendu compte que la préférence pour les garçons en était exacerbée.
L'anthropologue Marie-Hélène Dufour a interviewé beaucoup de familles indiennes pour sa thèse de doctorat. Elle constate que même celles qui gravissent les échelons économiques gardent un faible pour les garçons. Elle recourt même à l'avortement sélectif pour y parvenir. Même si les pratiques comme la dot à la famille du marié sont en diminution, une fille en Inde, ça reste synonyme d'investissement à risque, car à son mariage, elle va encore très souvent habiter dans la famille de son conjoint.
Parce qu'on va aussi éduquer les filles. Les filles sont très éduquées en Inde. Mais c'est une éducation qui va partir dans une autre famille parce que la fille, elle va se marier, elle va aller vivre dans une autre famille. Dans ce développement économique-là, la classe moyenne indienne s'est extrêmement élargie. Et c'est là qu'on voit beaucoup de préférences pour les garçons. La personne qui reste avec ses parents, c'est le fils ou les fils.
Nous allons retourner en Inde dans un tout petit moment, mais d'abord, Michel Labrecque, on voit là, dans ce que vous nous avez déjà présenté, un pays où plusieurs femmes sont loin de l'égalité. Et pourtant, une de vos invitées disait, il y a un fort mouvement féministe qui est là très présent dans le pays.
Tout à fait. Il y a des dizaines d'ONG comme cette ONG Siddharth qu'on a suivi dans notre reportage au Rajasthan. Alors, ces gens-là travaillent à aider les femmes à se prendre en main, changer les mentalités sans remettre totalement en question les coutumes locales. Et puis, il y a dans les villes indiennes, Michel, des femmes en politique maintenant, dans les milieux d'affaires, dans le monde culturel, qui revendiquent davantage d'égalité. Même Bollywood, hein, cet empire du cinéma indien, met de plus en plus en scène des femmes qui revendiquent leur autonomie, leur droit de choisir l'amour, parfois même l'amour avec une autre femme. C'est arrivé récemment.
Ça, oh là là, ça c'est un bon géant.
Hein? Ah oui, tout à fait.
Alors, cette jeunesse indienne, elle pousse. D'abord, ils sont très nombreux, les jeunes, et c'est à peu près toutes les traditions qui sont en train de remettre en question.
Oui, par exemple, les fameux mariages arrangés, hein, qui sont encore majoritaires majoritaire dans la société, mais maintenant, un jeune sur trois, on dit, se marie maintenant librement. Mais l'Inde, Michel, c'est une société qui est encore machiste. Les viols restent extrêmement nombreux, même des viols collectifs, souvent vraiment sordides. Et il y a un événement qui, plus que tous les autres, illustre les tensions entre cette Inde machiste et celle qui veut du changement, que ce viol du 16 décembre 2012. Alors, ça se passe à Delhi. Une jeune femme de la classe moyenne, elle est accompagnée d'un ami, elle sort d'un cinéma, elle est sauvagement agressée par un groupe de 6 hommes, elle va succomber à ses blessures. Alors, c'est un événement qui propulse la jeunesse indienne dans les rues pour dire « plus jamais ça ». J'ai voulu comprendre où en étaient les femmes des villes depuis cet événement qui a été vraiment un électrochoc. Donc, reportage dans la capitale et mégapole du pays, Delhi.
This very minute in the capital, hundreds of people have marched to India Gate with candles, flags and messages of support for the 23-year-old woman.
C'est une attaque sordide. Damini, 23 ans, une étudiante à l'université, est battue à coups de barre de fer et violée dans un autobus avec le consentement du chauffeur. Pour beaucoup d'Indiens, en particulier des jeunes, c'est le viol de trop. Ils descendent massivement dans les rues pour le dire. Ce n'est pourtant pas le premier viol collectif en Inde. Le phénomène est endémique partout dans le pays. Mais cette attaque d'une jeune femme dont les parents s'étaient saignés à blanc pour qu'elle fréquente l'université a l'effet d'une bombe. L'avocate et féministe Vrinda Grover a pris part au mouvement de protestation.
I think somewhere it struck a chord in both men and women.
Ça a touché une corde sensible, tant chez les hommes que chez les femmes. On a réalisé à quel point ce genre de violence est devenu routinière. Et ce qu'elle a fait était si ordinaire. Elle rentrait du cinéma. Elle n'avait rien fait de spécial pour se mettre en danger. Et tout le monde a pu ressentir sa peur, son impuissance et le fait que n'importe qui d'entre eux aurait pu être à sa place.
She succumbed to her injuries because the scale of those injuries was very grave.
Quelques jours plus tard, Damini succombe à ses blessures dans un hôpital de Singapour. Les assassins sont arrêtés et emprisonnés. C'est le début d'un immense examen de conscience de la société indienne.
This goes to show that the youth have talked to us of the older generation.
Un des meilleurs juges du pays, le juge Jagdish Charan Verma, dirige une commission d'enquête qui appelle à des réformes majeures du système judiciaire et de la police. Mais surtout, la commission prône des changements profonds de mentalité à l'égard des femmes. Une transformation loin d'être facile dans la vraie vie.
Hello.
Un refuge pour femmes victimes de violences à Delhi. Nous avons dû enregistrer l'ambiance sonore à micro caché car on nous a refusé toute entrevue formelle. Ici, le nombre de demandes est légèrement en hausse. Partout en Inde, le nombre de plaintes pour viol a augmenté depuis le fatidique 16 décembre 2012. Ça peut vouloir dire qu'il y a plus d'agressions, mais aussi que les femmes dénoncent davantage qu'auparavant. L'avocate et féministe Vrinda Grover.
It shows that women are not going to take it quietly or silently.
Ça montre que beaucoup de femmes n'acceptent plus ces agressions en silence. Elles disent, nous voulons que ceux qui commettent ces crimes soient poursuivis et punis. Mais en même temps, la police et les autorités judiciaires entretiennent encore un énorme préjugé qui ne va pas disparaître. Pour ma part, je suis convaincue que le système légal est carrément biaisé contre les femmes. Et il y a un refus total de reconnaître cette réalité.
There is a complete refusal to acknowledge this.
Dans le métro de Delhi, chaque rame compte 2 wagons réservés exclusivement aux femmes. Ça fait partie des mesures mises en place pour mieux les protéger. On peut aussi y lire des affiches gouvernementales qui appellent à dénoncer la violence domestique et le harcèlement. Mais dans la réalité, le sentiment de nombreuses femmes n'a pas vraiment changé.
Chaque fois que je marche, je tourne un peu pour regarder s'il y a quelqu'un derrière moi, s'il y a quelqu'un à me suivre. Parce qu'on a vu le cas du 16 décembre et ça s'est passé à Delhi, la capitale de l'Inde. Donc, si vous marchez ou si vous utilisez le transport public, il n'y a aucune garantie de votre sécurité. Et c'est vraiment le gouvernement doit avoir honte parce que On est comme des étrangers dans notre propre pays.
Étudiante en littérature dans une université de Delhi, Devika Kohli vit chaque jour avec l'insécurité. Mais ce n'est plus seulement de la peur qu'elle ressent.
Si on marche dans la rue, il y a une certaine manière dans laquelle les hommes nous regardent, surtout si on porte un certain type de vêtements. Donc c'est vraiment gênant, ça me rend en colère parce qu'on n'a pas la même liberté que les hommes. Ils ont le droit d'aller n'importe où, porter n'importe quoi, parler avec n'importe qui, n'importe à quelle heure, mais ce n'est pas le même cas avec nous.
Devika se rappelle d'un incident dans la section du métro réservée aux femmes qui est révélateur, selon elle, de l'ampleur du problème.
Il y avait une fille qui portait une petite jupe dans le métro. Quand elle est partie, il y avait deux femmes policières dans le compartiment et elles ont commencé à dire à l'un l'autre, « Si elle porte des vêtements comme ça, bien sûr, qu'est-ce qu'ils pensent va leur arriver ?» Et puis, il y avait une femme qui était assise à côté et elle a commencé à leur parler qu'il faut changer votre mentalité. Donc, c'est ça, c'est la question de la mentalité.
Il y a des milliers de Devika à Delhi, des jeunes femmes éduquées qui refusent de rester chez elles, mais qui mettent aussi en question une bonne partie des traditions indiennes qui définissent les rapports entre les hommes et les femmes. Le café Starbucks du centre-ville de Delhi est bondé de jeunes, souvent en couple. C'est ici que m'a donné rendez-vous Ira Trivedi. Cette romancière indienne de 29 ans qui a vécu aux États-Unis vient de sortir un essai sur les changements des relations amoureuses en Inde. Elle constate une véritable révolution des mœurs.
Pour les jeunes hommes et aussi les jeunes femmes, les relations sexuelles avant le mariage sont maintenant courantes. C'est quelque chose qui était inimaginable il y a à peine 10 ans. Maintenant, sur les campus universitaires, les gens disent « si vous ne le faites pas, vous n'êtes pas cool ». Avant, le mariage arrangé était la pierre angulaire de la société indienne et ça l'est encore. Autour de 65 % des mariages sont arrangés, mais aujourd'hui, il y a plein de jeunes comme moi qui sont impliqués dans des relations purement amoureuses. Who are engaged in romantic relationships.
Parce qu'aujourd'hui, les jeunes vont travailler, tout d'abord. Ils veulent une carrière. Et pour moi aussi, c'était une priorité. Je voulais m'installer en ce qui concerne l'emploi après le mariage.
Professeur de français à Delhi, Gunjan, 26 ans, s'est mariée récemment avec un jeune homme de son choix. Elle fait partie des jeunes indiennes qui ne renient pas leur héritage culturel, mais qui revendiquent pleinement l'égalité personnelle et professionnelle.
Je crois que c'est aussi lié avec l'indépendance financière pour les femmes. Nous, on a commencé à travailler, donc on se sent plus libre de dire ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas du tout. On peut dire non, je ne veux pas me marier maintenant. Si vous avez un problème, je peux trouver un appart et je peux survivre. Je n'ai pas exactement besoin de vous comme c'était le cas avant.
La famille.
La famille, bien sûr.
Et ça, c'est un changement majeur, ce que vous décrivez là, par rapport à ce qui existait en Inde il y a 10-15 ans à peine.
Oui, c'est un changement majeur et je dirais que c'est très, très normal.
La situation des femmes en Inde reflète aussi les grandes tensions entre modernité et tradition que traverse en ce moment tout le pays. L'avocate et militante féministe Vrinda Grover.
Definitely the new generation of women has no patience. They have a very different level of confidence.
La nouvelle génération des femmes n'a aucune patience. Elle a un niveau de confiance très différent de la mienne. Ces jeunes comprennent très bien les enjeux dont le pays discute depuis 30 ans et elles n'ont aucune envie d'être subordonnées aux hommes. C'est une génération très courageuse et confiante en elle, mais ça va prendre plus de temps qu'une seule génération pour inverser le cours des choses. Parce que l'Inde possède encore tout ce bagage patriarcal qui va prendre encore beaucoup de temps à disparaître.
Patriarchal and other baggage, which is going to take time to go away. Ghanashyama Chandika Chhatridharini Girija.
C'est la musique du groupe indien Space qu'on vient d'entendre, une formation qui est dirigée par deux femmes et une chanson, Michel, qui dénonce la violence domestique dont sont victimes plusieurs Indiennes.
Voilà.
Un mot en terminant là sur ce viol sordide de décembre 2012. La justice, vous l'avez dit, s'est emparée de l'affaire. Il y a 4 des auteurs qui ont été trouvés coupables et condamnés à mort.
Oui, qui sont toujours en prison en ce moment, Michel. Une condamnation qui suscite un autre débat en Inde sur la peine de mort, cette fois-là, mais qui vise à envoyer un message fort, message que la justice indienne prend désormais ça au sérieux. Les médias, je l'ai noté quand j'étais là-bas, parlent aussi beaucoup plus des cas de viol. On voit presque chaque jour des histoires dans les journaux. Mais ça n'empêche pas des faits totalement surréalistes de se produire encore aujourd'hui. En janvier dernier, écoutez bien ça, une femme, on est dans un village, accusée d'avoir voulu marier un homme d'une autre caste que la sienne, on est au Bengale, eh bien, cette femme-là a été violée par les membres du conseil de village eux-mêmes qui jugeaient l'affaire. Alors, ces gens-là aussi ont été arrêtés, font face à la justice.
Il reste de la pédagogie à faire un peu. Alors, la semaine prochaine, Michel, on va se retrouver poursuivant notre découverte des grands enjeux de l'Inde actuelle.
Voilà, un pays à la croisée des chemins. Les jeunes veulent moins de corruption. Un pays qui rêve de développement, mais qui se heurte à d'énormes problèmes d'infrastructure. Un pays, Michel, qui pourrait élire en mai un nationaliste hindou comme premier ministre et ça relance les craintes d'affrontements religieux dans ce pays extrêmement divers. Alors, on vous parlera de tout ça et aussi encore de révolution des mœurs dans ce pays.
Michel Labrec, merci.
Au revoir.
Himagiri jahin gula kashmiri shada da dani.